Pour faire suite à cette louange, on peut prier encore pour être bouleversé par l'amour de Dieu. Pourquoi? Comment? Il y a cette belle prière de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 3, les versets 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre. Je prie qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, et connaître cet amour qui dépasse toute connaissance afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors que l'on poursuit l'étude de l'épître des Éphésiens, je me demande si, comme moi, parfois vous vous rendez compte qu'il y a un décalage entre ce que je vis, ce que nous vivons, et ce qu'on entend, découvre, comprend au travers des diverses prédications ou en partageant ces textes dans les groupes de maison. Est-ce que, comme moi, vous sentez parfois une certaine frustration en vous disant qu'il y a certainement plus que ce que je comprends, plus que ce que je perçois, plus que ce que je vis? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait parfois plus à vivre? C'est clair que cette épître, elle est magistrale, mais nous fait ressentir plus fortement qu'il y a un décalage, une tension entre le déjà et le pas encore. Cette épître nous décrit l'accomplissement du grand projet de Dieu au travers de son plan de salut. Dieu veut manifester la gloire de sa grâce à ses enfants. Et pour cela, le texte du jour nous invite à nous laisser propulser vers une expérience spirituelle renouvelée de l'amour de Dieu. C'est ce que je souhaite pour nous ce matin, ma prière. La première partie, j'intitulerai les deux premiers versets « Dans l'intimité du Père ». Dans les versets précédents sur notre lecture, Paul a confirmé que c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés, que c'est le don de Dieu d'être réconciliés avec lui, que nous avons dès lors accès au Père, ça c'est dans le chapitre 2, car nous faisons partie de la famille de Dieu. Et nous l'avons entendu, lui, il y a un mois, le secret, le mystère révélé, et que nous sommes héritiers, juifs et non-juifs, de la même promesse, formant ensemble une habitation de Dieu en esprit. Ayant intégré tout cela, Paul exprime alors « C'est pourquoi moi, le prisonnier ?» Reconnaissant toutes ces bénédictions, Paul fléchit le genou. En se mettant à genoux, il manifeste un signe de déférence, une marque de respect, une soumission volontaire. Mais je crois qu'en même temps, il entre dans un cœur à cœur, dans l'intimité du Père, se reconnaissant comme son enfant, fils et fille du Père. Une belle illustration de cette scène, c'est un petit peu flouté là, c'est peut-être le tableau de Rembrandt, le retour du fils prodigue. Mais moi, je me suis focalisé sur le père prodigue qui accueille son fils qui revient à la maison. Vous voyez ce dernier repentant à genoux qui vient appuyer sa tête contre la poitrine de son père, qui l'attire entre ses deux bras, l'entourant d'une main féminine et d'une main masculine. C'est le pardon humain qui est demandé, qui est accordé, et le fils repentant a enlevé ses chaussures par humilité. Une belle image du Père céleste, qui est mentionné comme celui de l'humanité, mais aussi celui des créatures célestes. Les familles dans les cieux seraient les différentes classes d'anges qui englobent des êtres bons et aussi des rebelles, alors que les familles sur terre correspondraient plutôt à ce que nous entendons habituellement par famille. mais toutes tirent leur origine du Père Créateur. Et puisqu'il règne sur tous, réalisons que nous pouvons nous approcher pleinement confiants qu'il va répondre. Comme Paul, humble et reconnaissant, sachons nous aussi fléchir le genou, entrer dans cette intimité avec notre Père. Dans les versets suivants, nous découvrons une première requête. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi. Il y a de la puissance dans cette requête, puissance basée sur les richesses que Dieu donne, le Père. Elles ont un poids de gloire. Pour ma part, elles font référence au chapitre 1er de cette épître. Rappelez-vous, nous sommes bénis, choisis, adoptés, rachetés, héritiers, emprunts du Saint-Esprit. Ainsi, c'est l'Esprit qui agit pour nous rendre forts, solidement construits dans notre être intérieur, cet être intérieur qui est constitué de notre âme et de notre esprit. Alors, c'est clair que cela touche notre âme, notre intelligence, notre volonté, nos émotions, mais cela impacte aussi notre esprit, ce qui est de l'ordre de la conscience, de l'intuition, de l'adoration. Dépouillé de la vieille nature, ayant revêtu l'homme nouveau, celui-ci se renouvelle. Même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est étonnant parce que même si ce processus est en cours, cela n'empêche pas Paul d'intercéder pour ces chrétiens d'Éphèse, pour qu'encore plus ils soient fortifiés, matures par l'action du Saint-Esprit. Et ceci pourquoi? Afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est cela l'Évangile. Demeurez en Christ, êtes l'habitation de Dieu, convaincu de sa grâce et confiant que le Christ habite dans mon cœur. Je peux prier cette prière basée sur les richesses de Dieu. Aspirez à ce que Dieu fasse de moi son témoin, que nous reflétions le Christ, que nous grandissions à sa ressemblance. Attention, ce n'est pas rechercher une expérience pour vivre une expérience, ce n'est pas ça. Mais quelque part, pourquoi s'en priver? Nous sommes encouragés à demander à notre Père l'expérience d'une force intérieure qui nous dépasse. Quand Dieu agit, notre identité change, ça bouge, l'esprit se manifeste. L'on dirait chez nous, ça va commencer à se voir. En arrière-fond, Paul intercède pour que cela soit pleinement naturel, pour que les gens autour de nous le perçoivent, soient interpellés par la vie des chrétiens, appelés chrétiens parce que c'était des petits Christ. Plus près de nous, je vous rappelle le rêve de Stéphane Roussel pour l'Église d'aujourd'hui. Il dit dans son livre, « Une Église témoin de la vie du Saint-Esprit en elle, tous les jours et en phase avec le quotidien de ses amis, voisins, collègues, qui vit sa vie. » Et vous vous rappelez peut-être pour ceux qui étaient au week-end, mais je le dis pour les autres, sa parabole de Bob l'éponge. Si l'éponge est peu imbibée d'eau, elle doit être pressée très forte pour laisser quelques gouttes perler. Alors que si l'éponge est saturée d'eau, elle peut pas retenir cette eau et inonde l'endroit où elle se trouve. Et Paul exprime clairement ici, certainement avec foi, que vous soyez puissamment fortifié par son esprit. C'est du dur. Ma question, est-ce qu'on ose prier cela, intercéder pour que les réalités du royaume se manifestent ici et maintenant? Parce qu'afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, ce n'est pas que du domaine de l'espérance, mais il y a du déjà pour aujourd'hui. C'est certes un acte de confiance, c'est certainement quelque chose de plus profond, un engagement, un acte d'obéissance. Mais quelque part, à l'exemple de Paul, Dieu nous invite à demander plus parce que nous avons déjà tout en Christ. Cette prière nous engage à ne plus vivre comme des pauvres sur le plan spirituel, à considérer que nos richesses spirituelles ne sont qu'abstraites, théoriques, sans impact sur notre façon de vivre. Non, cette prière est un riche plaidoyer pour rechercher, demander l'expérience spirituelle qui correspond à l'œuvre déjà accomplie par Christ. Et cette expérience, Dieu la met déjà à notre disposition aujourd'hui même. Alors oui, ose prier, ose demander, ose intercéder cette première requête. Dans les versets suivants, nous découvrons la deuxième requête. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Cette deuxième partie de la prière parle du socle qui va renforcer notre foi et donc nous permettre d'obéir. Il est mentionné en fondement végétal, les racines, c'est quelque peu mouvant, ça reste en croissance et capable de s'enfoncer en profondeur, alors que le deuxième fondement est plutôt minéral, correspond plus à des fondations, à quelque chose de solide, d'immuable. Et si les deux sont entrelacés, ça permet de s'accrocher. S'accrocher à quoi ? Ben, Paul prie pour que les Éphésiens soient enracinés et fondés dans l'amour du Christ. Et on en a abondamment parlé, chanté tout à l'heure. Cet amour, il le caractérise pour que nous comprenions que cet amour est le véritable fondement. Il précise que l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Il nous fait entrer quelque part dans une quatrième dimension, celle des réalités spirituelles qui se manifestent sur terre. Alors certains ont voulu donner une interprétation à ces quatre dimensions, ce n'est pas nécessaire, mais par contre, laissons-nous nous enthousiasmer par l'ampleur de l'amour du Christ. Mais c'est embêtant parce que Paul précise aussi que cet amour dépasse toute connaissance. Bizarre, non ? Si nous sommes appelés à connaître quelque chose qu'on ne peut pas connaître, c'est un peu paradoxal. Non, si l'on se place dans le domaine de l'espérance, oui, nous pouvons déjà le connaître, son amour, mais sa plénitude reste du domaine du pas encore. Aujourd'hui, nous avons toutefois plusieurs possibilités d'appréhender cet amour du Christ. Et selon les définitions du Robert, on peut le comprendre, l'appréhender par l'intelligence, le raisonnement, percevoir cet amour du Christ et le connaître sans faire une idée claire, avoir présent à l'esprit la grandeur de cet amour du Christ. Certes, c'est une bonne façon de l'appréhender, mais ça reste du domaine de l'âme. À mon avis, il ne faut pas oublier la deuxième dimension, car Paul parle de l'être intérieur en tant qu'âme et esprit. Est-ce que nous aspirons aussi au fond de notre cœur à ce que notre esprit comprenne, c'est-à-dire dans le sens et une connaissance intuitive de l'amour du Christ et connaisse dans le sens de vivre, ressentir cet amour du Christ? Juste répéter ça. Hein? Est-ce que, au niveau de notre esprit, est-ce qu'on veut vraiment avoir cette connaissance intuitive de l'amour du Christ et ressentir cet amour du Christ? Quelque part que ça touche nos entrailles, quoi. J'espère que juste que vous saisissez cette nuance, l'importance que ce soit l'être intérieur, l'âme et l'esprit, que le cœur soit fortifié. Ne pas délaisser le cœur, mais partir du cœur. J'aimerais juste vous partager une petite découverte de l'année passée. L'on m'a souvent répété, je crois depuis que je suis tout petit, et vous l'avez certainement aussi entendu, que pour nous chrétiens, les 30 cm les plus longs, c'est de la tête jusqu'au cœur. Ceux qui vont de notre tête à notre cœur. Eh bien, probablement pas. Peut-être que je vais vous décevoir, mais je pense que c'est un faux constat. Un enseignant a rectifié cela en mentionnant que pour nous chrétiens, les 30 cm les plus longs, c'était ceux qui vont de notre cœur à notre tête. Dieu déverse son amour dans nos cœurs, par son esprit le transforme, le Christ y habite. Et si Paul prie que Dieu nous l'accorde puissamment dans notre être intérieur, ce n'est pas seulement pour que notre esprit soit renouvelé, mais aussi notre âme, notre intelligence. Paul en fait mention au chapitre suivant, « Apprendre Christ, c'est-à-dire être renouvelé par l'Esprit dans notre intelligence. Laissons pour une fois notre cœur impacter notre raison. » Et selon Romains 5:5, l'Esprit qui nous est donné déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Notre cœur, le centre de notre personne, est ainsi rempli de l'amour de Dieu. Alors mon constat, SOS, nous avons besoin de cette prière. Notre plus grand besoin n'est pas la prospérité financière, une bonne marche de notre carrière ou de notre famille, même si Dieu ne méprise pas ces choses. Ce n'est pas la santé, aussi importante soit-elle. Notre plus grand besoin est de vivre une expérience renouvelée et approfondie de l'amour de Dieu. Je pense que c'est une petite perle, non? Notre plus grand besoin est de vivre une expérience renouvelée et approfondie de l'amour de Dieu. Ce que Paul sous-entend, et reconnaissons qu'il a raison, c'est qu'il existe quand même régulièrement un décalage entre la réalité que nous avons vécue en Christ et notre expérience pratique de cette réalité. Peut-être que souvent on se contente de vivre de quelques miettes, alors que si au fil du temps, nous étions de plus en plus conscients de l'amour du Christ, ne serions-nous pas, comme le dit ce texte, de plus en plus remplis de la plénitude de Dieu? Alors comment progresser dans notre prière? Ce texte m'invite à prier pour être bouleversé par l'amour du Père. Amour sans limite d'un Dieu bienveillant, qui fait grâce, miséricordieux, compatissant, long à la colère, riche en bonté, comme on peut le lire dans le psaume 103. Cette prière, c'est aussi une louange centrée sur l'amour de Dieu qui nous encourage à rechercher des expériences bouleversantes. Pour Paul, ces expériences s'enracinent profondément dans le plan révélé de Dieu, dans l'Écriture, loin de l'expérience simplement pour l'expérience. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes plongés dans l'amour du Christ? Je vous lis le témoignage de Corrie ten Boom. Ceux de ma génération connaissent l'histoire de cette chrétienne des Pays-Bas qui s'est retrouvée dans le camp de concentration de Ravensbrück durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu besoin d'être puissamment fortifiée par l'Esprit dans son être intérieur et je vous lis cette histoire. Donc, deux ans après la guerre, en 1947, alors elle avait pu échapper de ce camp de la mort de Ravensbrück, alors que Corrie se trouve dans une église de Munich pour parler du pardon de Dieu, elle aperçoit celui qui avait été quelques années auparavant l'un des surveillants les plus cruels du camp de Ravensbrück. Après la conférence, il vient vers elle pour lui serrer la main. De toute évidence, il ne l'a pas reconnue. Entre-temps, il est devenu chrétien. Il lui demande en tant qu'ex-prisonnière de lui pardonner toutes les cruautés qu'il a commises au camp. Sur le coup, Corrie en est incapable. Elle est bloquée, figée. Elle raconte la suite. Je fis cette prière en silence. Jésus, aide-moi. Bien sûr, je peux lever ma main. Ça, j'en suis bien capable, mais c'est à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que dans un geste raide, mécanique, je posais une main de bois dans celle qui m'était tendue. Et il se produisit à cet instant quelque chose d'incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras, jaillir dans nos mains serrées, puis cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être et mes yeux s'emplirent de larmes. Elle s'exprime « Je vous pardonne, frère, de tout mon cœur. » Nos mains restèrent longtemps serrées, celles de l'ancien surveillant dans celles de l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. Mais au même moment, je compris à nouveau qu'il ne s'agissait pas de mon amour. J'avais essayé et à chaque fois, je n'en avais pas eu la force. C'était la force du Saint-Esprit. Que s'est-il passé à ce moment-là? Alors que Corrie était confrontée à sa faiblesse et qu'elle se sentait totalement démunie, elle a fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit qui l'a fortifiée intérieurement. Et hier, en fin d'après-midi, alors que j'avais vaqué à quelques occupations, que Martine rentrait après avoir participé avec quelques-uns de vous aux travaux ici, qu'on partageait nos journées. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si Martine a dit quelque chose, mais j'ai eu cette intuition, mais cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs, ce qui n'est pas source de guérison. En déversant son amour dans nos cœurs, pour un cœur à cœur, Dieu le transforme, mais certainement a besoin de le guérir et qu'il le guérit. Et selon Anne Merlot, il ne fait pas du superficiel, il va jusqu'au fond de nos pires turpitudes. J'aime bien ça, son expression, Anne. Toutes nos frustrations, nos manquements, nos sentiments d'échec, de mise à l'écart, le fait d'être déprécié, négligé, parfois dévalorisé, abusé psychologiquement, t'es un nul, voire pire, abusé sexuellement ou spirituellement, toutes ces agressions qui blessent notre être intérieur. Mais il y en a d'autres, il y a le sentiment de solitude, le sentiment de peur, le deuil, les ruptures, les conflits, la déprime pour certains de nos amis, les blessures de la guerre, de la persécution, de la prison. C'est clair qu'on peut cheminer, on peut aider, on peut, par l'écoute, la relation d'aide, le suivi psychologique, même la médication, tout ça peut être utile. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus dans cet amour du Père pour guérir nos cœurs? Alors je disais qu'avant il y avait une petite perle, notre plus grand besoin est de vivre une expérience renouvelée et approfondir de l'amour de Dieu. Plutôt qu'une perle, c'est peut-être le véritable remède. Juste ce texte montre aussi que si Paul s'intéresse à notre piété personnelle, notre être intérieur, il s'intéresse aussi à notre piété collective avec tous les saints. Et il faut se rendre compte que c'est aussi notre Église locale qui nous permet de renouveler fréquemment notre expérience de l'amour du Christ. Comme ce matin au cours du culte, on partage la louange, on écoute la prédication, parfois on partage la scène, mais aussi on la vit au travers de la communion fraternelle, l'écoute, un service rendu. Si l'on s'engage dans une telle prière, l'amour du Christ se vit aussi au rythme de nos relations, certes ensemble entre nous chrétiens, mais je crois aussi hors les murs. Et je pensais à deux de nos amis qui sont ici dans la salle, que je ne vais pas nommer, parce que si la prédication est en ligne, je vais l'éviter. Notre ami du Burundi, moi je suis toujours frappé par, je pense, l'amour du Seigneur qui est dans ton cœur quand on voit la paix et le sourire que tu déverses et que tu nous apportes. Et à toi, notre ami iranien, que tu rends ton témoignage et que tu parles du bon berger, je pense que cet amour t'a touché aussi profondément. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Et j'arrive au bout avec ces derniers versets, la prière se termine par une adoration. Une adoration digne de foi. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons, même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. C'est peut-être en se souvenant de cette parole de Jésus, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, dans Marc 10, 27, que Paul exprime ses louanges. Dieu n'est pas limité par nos faibles demandes. Il a envie non seulement d'honorer nos requêtes, mais Dieu est capable d'agir. Il le fait puissamment en dépassant nos limites pour réaliser son plan d'amour, pour nous guérir ainsi que vivre et partager l'amour du Christ. Et pour nous, les Amandiers, notre vision le précise, ici sur la côte déjà. Dieu est honoré et glorifié par le plaisir que nous prenons en lui. Il est glorifié quand sa puissance agit en nous, nous guérit, nous transforme par l'Évangile. Il est magnifié quand nous sommes bouche bée devant sa grâce et son amour. Alors l'Église en est témoin. C'est un des seuls textes où il est mentionné que sa gloire est manifestée dans l'Église. Oui, elle est en capacité de célébrer la gloire de sa grâce en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au cours des siècles. Amen. On verra dans les chapitres suivants que Paul va poursuivre sa pensée, expliciter comment mettre cela en pratique. Je vous exhorte, moi le prisonnier, à marcher d'une manière digne, à conserver l'unité de l'esprit, à vous édifier dans l'amour, à ne pas attrister le Saint-Esprit. Jude aussi nous exhorte d'une manière semblable, « Bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Lors du week-end d'église, Stéphane Rossel nous avait parlé de la prière comme une relation de cœur à cœur avec Dieu, une prière, et nous encourageait à rechercher une prière ouverte qui se met au diapason de la volonté de Dieu, priée par le Saint-Esprit, comme le dit Jude. En deux mots, il résumait, écoute et dis ce que tu as entendu. Eh ben, une proposition, je peux conclure par une action très concrète. Prie à l'aide de ces versets en les personnalisant. Insère-y ton prénom, insère-y celui de ton conjoint, insère-y celui de tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, de nos voisins ou de notre Église, pour que nous soyons encore bouleversés par l'amour du Christ et bouleversants sur la côte, voire au-delà. Et j'ai lu le témoignage d'une personne qui, après l'avoir prié plusieurs mois de suite, pour lui et en faveur d'autres, a vu des guérisons dans sa vie, dans sa famille, son ministère. Alors peut-être que j'aurais pu vous proposer un autre titre, « Prions pour être guéris par l'amour de Dieu et pour être source de guérison. » Amen. Je me permets juste cette information. Vous connaissez, on en a déjà parlé avec Odile aussi, de l'œuvre « Father Earth, cœur du Père ». Ce soir, à 20h en ligne, il y a le témoignage de Barry Adams, celui qui a écrit la lettre du Père. Je pense que pour ceux qui sont intéressés, je vous donne volontiers le lien. Ça peut être aussi en complément à ce que j'ai dit ce matin. Que le Seigneur bénisse. Et moi, j'ai presque envie, je ne sais pas que j'ai envie, je vais le faire, de vous relire la prière de Paul et de la mettre à la première personne du pluriel. C'est pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il nous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Je prie que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.